Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, Tag BZH lance sa campagne annuelle de recrutement de projets d'entreprise à impact positif. Retour sur le mardi de l'espace des sciences d'hier, en compagnie de David Chavalarias, qui est mathématicien. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, une interview d'Éric Neveu, professeur émérite de sciences politiques et l'auteur des 68 arts ordinaires. Et puis deux recommandations, une expo et un ciné-débat. Bienvenue dans l'arène. Comme chaque jour, on lance l'émission d'information locale avec une info du jour que je choisis à chaque fois pour vous dans la presse locale. Aujourd'hui, on relaie l'appel des incubateurs Tag BZH qui ont lancé leur campagne annuelle de recrutement lundi 25 mars. Tag BZH, c'est une association branchée économie sociale et solidaire. Sa mission, accompagner la création d'activités non délocalisables, inscrites dans la durée et puis innovantes tant sur le plan environnemental que social. Par exemple, on retrouve des projets de tiers-lieu en milieu rural, un habitat partagé pour des personnes âgées, une recyclerie paramédicale ou encore un dispositif d'accompagnement des femmes pour une meilleure visibilité en musiques urbaines. Pour faire éclore ces activités, en Bretagne, il y a un incubateur par département et puis aussi 6 espaces de coworking. Depuis 2016, ce sont 258 projets d'entreprise qui ont été accompagnés par Tag BZH. Et avec cette nouvelle session de recrutement, les porteurs de projets, ils ont quelques semaines seulement pour candidater. À la clé, un accompagnement sur une période de 10 à 18 mois en compagnie d'une équipe de professionnels dans l'objectif de lancer leur entreprise pour de bon. Focus sur une entreprise fraîchement propulsée par Tag 35, donc pour l'Ille-et-Vilaine. Origine, c'est son nom, c'est une entreprise sociale et solidaire qui est basée dans la région de Saint-Malo. Des scaphandriers qui sont engagés dans la protection de l'océan et la lutte contre la pollution. Leur projet comprend plusieurs axes, le développement de solutions innovantes pour dépolluer ports, rivages et eau intérieure, des coopérations avec des collectivités locales, des entreprises et des associations actives dans ce domaine, et puis enfin de la sensibilisation auprès du grand public. L'ensemble des projets accompagnés est à retrouver en ligne sur tag.bzh. Et après cette info du jour, c'est l'heure de vous laisser avec Corentin, volontaire en service civique. Il a profité de l'avenue de David Chavalarias à l'espace des sciences pour parler réseaux sociaux. Une conférence qui est à retrouver en ligne sur espace-science.org.
Réseaux sociaux, opportunités ou dangers pour la liberté d'expression et la démocratie. C'était le thème du dernier mardi de l'espace des sciences qui se déroulait mardi 26 mars à l'Auditorium des Champs Libres. Une conférence en présence de David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS au Centre d'analyse et de mathématiques sociales et également directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris. Il est aujourd'hui avec moi pour parler de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur les individus, la société et aussi sur la géopolitique. Bonjour David.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions » sorti chez Flammarion en 2022. Qu'est-ce qui vous a mené à écrire ce livre ?
Alors, dans mes recherches, je m'intéresse à la question de l'impact du numérique sur les sociétés, notamment sur la formation des idées, des opinions, des groupes sociaux. Et j'ai monté avec des collègues, notamment Mazyar Panahi en 2016, une sorte d'observatoire de la twittosphère politique. Donc on s'est mis à observer avec les outils que proposait Twitter, en gros, le militantisme politique en ligne. Et on a eu comme ça plusieurs millions de messages par jour qui parlaient de la politique française et qui étaient assez représentatifs, non pas de la France, mais de, des formations politiques, de la manière dont elles déployaient leurs programmes, elles faisaient des alliances, etc. Et donc on a eu comme ça jusqu'en 2023, quand Elon Musk a coupé ses accès. On a eu donc un point de vue assez exceptionnel sur la vie politique française et on a pu voir l'évolution à la fois des formations politiques mais aussi des nouvelles pratiques qui permettent de manipuler l'opinion soit par des acteurs français, mais avec des méthodes trompeuses, soit par des acteurs étrangers. Et devant la recrudescence de ce genre d'action, devant aussi un contexte un peu global, où on voit qu'il y a la montée des populismes et des extrémistes dans différents pays, j'ai voulu rendre compte un petit peu dans ce livre de ce qu'on pouvait à la fois observer en ligne, de manière plus générale de l'impact de ces réseaux sociaux sur la démocratie, et d'amorcer des pistes de solutions pour essayer de sortir de ce marasme.
Ce dont vous parliez, cet observatoire, ça prend forme avec ce qu'on peut appeler une cartographie des réseaux sociaux.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que beaucoup d'échanges maintenant se font en ligne sur les différents réseaux sociaux. Le plus gros, c'est Facebook, avec 3 milliards d'utilisateurs au niveau mondial, donc quasiment 30% de la population. Et donc, on peut, si on a accès à ces échanges, dire... qu'est-ce qui est échangé, quelles sont les tendances, quels sont les groupes sociaux, comment ça se forme, etc. Et donc nous, on a une petite fenêtre qui est Twitter, parce que Twitter, c'est un réseau finalement assez petit, mais où sont présents beaucoup d'influenceurs, toutes les personnalités politiques étaient dessus, les journalistes, etc., etc. Et donc, en analysant la manière dont les personnes échangent entre elles, donc on avait les messages, on avait qui reposte qui répond à qui, on peut faire des sortes effectivement de cartes quasiment géographiques où on voit où les éléments sont des comptes Twitter, mais on voit comment ils s'organisent en groupes, en supergroupes, comment ces groupes s'affrontent au cours du temps, comment évoluent les rapports de force. Et donc ça, c'est tous les travaux qu'on a fait donc à l'Institut du système complexe du CNRS avec le Politoscope, et on l'a décliné aussi sur les questions climatiques et sur les questions de la pandémie.
C'est quoi la différence principale entre nos interactions sur les réseaux sociaux et celles en dehors d'Internet ?
Bon, déjà, en ligne, il n'y a pas de frontières. Donc, vous interagissez indépendamment des barrières géographiques et même des barrières nationales. Vous pouvez interagir avec des gens qui sont dans d'autres pays. Il y a le côté instantanéité. Vous pouvez créer des groupes, des regroupements très rapides, diffuser des nouvelles. Par exemple, on se souvient des Macron Leaks qui ont fuité quelques minutes avant la période de réserve lors du second tour de l'élection présidentielle. Et là, l'intention, c'était en quelques heures de diffuser une information soi-disant scandaleuse pour changer les opinions. Donc on a cette massification, cette perte de barrière géographique, et on a un troisième élément qui est que, eh bien, on ne rencontre pas les personnes physiquement. Donc vous n'avez jamais la garantie qu'en face de vous, la personne... et effectivement ce qu'elle décrit, ça peut être même un robot, maintenant ça peut même être une intelligence artificielle puisqu'elles arrivent à faire des comportements humains plus vrais que nature. Et donc la manière dont vous allez percevoir les messages est complètement biaisée, au sens où pour comprendre un message, on s'appuie dans le monde réel sur ce que l'on connaît de la personne, puisqu'on infère des intentions et on essaye à partir de là de comprendre, d'interpréter ce message et donc de savoir qu'est-ce que la personne veut dire avec ce message, quels sont ses objectifs, etc. En ligne, on peut très bien tromper sur les intentions, puisqu'on peut tromper sur qui est la personne qui vous parle. Et beaucoup de messages que vous voyez passer en ligne, vous ne connaissez pas les auteurs ni le contexte de production. Et ça, ça fait une très grande différence. Et ça donne vraiment un avantage à toutes des opérations de désinformation, de manipulation d'opinion, par des choses qu'on appelle un peu astroturfing, c'est-à-dire amplification d'une présence par des robots, des intelligences artificielles, etc. Et donc toutes ces trois caractéristiques, donc déspatialisation, massification des interactions, et puis non-connaissance des contextes de production d'une information, fait que notre rapport à l'information aux autres est très différent en ligne et hors ligne, et qu'on est plus facilement susceptible d'être embarqué dans des choses que finalement on ne comprend pas très bien.
Qu'est-ce qui explique que ces conditions que vous venez d'énoncer par rapport aux interactions sur les réseaux sociaux, elles aient plus facilement des impacts négatifs que positifs ? Pourquoi ça pourrait favoriser une fake news plutôt qu'autre chose ?
Tout à fait. Alors, il se trouve que la plupart de ces réseaux sociaux sont implémentés sur des plateformes, donc des grandes plateformes qui sont privées et qui ont des objectifs commerciaux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez en fait en ligne sur un réseau social est pensé et défini par la plateforme. Vous ne voyez pas tout ce que produit votre environnement social, vous ne voyez pas tout ce que produisent les gens à qui vous êtes abonné, vous ne voyez qu'un petit pourcentage. Et ce petit pourcentage, ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est la plateforme. C'est la plateforme qui l'oriente vers votre fil d'actualité. Et donc, ça, c'est ce que je décris vraiment dans le livre aussi Toxic Data, dans l'un des chapitres. Il se trouve que ces plateformes commerciales privilégient ce que l'on appelle l'engagement, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier des contenus qui vont générer du clic, pour faire court. Or, les contenus les plus négatifs, hostiles, toxiques, sont ceux qui procurent le maximum d'engagement. Et donc, ce sont ceux que la plateforme va sélectionner, donc sur-sélectionner, pour mettre dans votre fil d'actualité. Et on a pu mesurer avec des collègues, notamment Paul Bouchot, que par exemple sur une plateforme comme Twitter, ce que vous présente Twitter dans votre fil d'actualité est enrichi de 50% de contenu toxique par rapport à ce que produit effectivement vos amis. Et donc ça, ça donne un avantage donc à la fois au contenu toxique, à la désinformation, mais aussi aux personnes qui produisent ces choses-là, donc qui sont mises au centre du réseau. Et ça, cela fait que les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus actuellement s'emballent vers plus d'hostilité, plus de négativité, plus de désinformation. Mais il faut comprendre que ce n'est pas du tout une fatalité. C'est juste que l'on a choisi, la plupart des personnes utilisent ces réseaux sociaux commerciaux, alors que maintenant, il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes, notamment libres. On peut mentionner par exemple Mastodon, qui n'utilise pas ce genre de filtre et qui n'amplifie pas, ne suramplifie pas les contenus toxiques.
Donc ça permettrait un échange d'informations tout aussi efficace, mais en enlevant le biais commercial.
Tout à fait.
Durant vos conférences, vous expliquez les impacts que les réseaux sociaux ont sur la société et sur les individus, et vous citez quelques exemples concrets. Est-ce qu'on peut en avoir
Bien sûr. Alors, à titre individuel, on sait qu'il y a des impacts psychologiques sur au niveau des réseaux sociaux. Déjà, on voit que ce surplus de toxicité peut faire du mal au moral. On sait aussi, par exemple, par des fuites internes de documents Facebook, que Instagram a favorisé, dans certains cas, l'anorexie ou certaines maladies mentales. Donc ça, c'est au niveau individuel. Ça peut amener des gens à se radicaliser. On l'a vu, par exemple, dans la pandémie, il y aura des individus qui sont nourris qu'à certaines formes de désinformation et qui sont tellement convaincus parce qu'elles ne voient que ça autour d'elles. On appelle ça des chambres d'écho, une espèce d'enfermement informationnel, qu'elles sont convaincues qu'elles sont à la fois menacées, victimisées, que le monde va de travers et donc veulent agir. Et puis après, donc, au niveau collectif, eh bien, on voit tout simplement que ça polarise l'opinion, au sens où ça crée des groupes d'opinions qui sont de plus en plus hostiles les uns envers les autres, de moins en moins ouverts. Un des exemples les plus célèbres, c'est les partisans de Trump qui ont envahi le Capitole en janvier 2021, en étant convaincus qu'on leur avait volé l'élection, ce qui est totalement faux. Toutes les analyses et les enquêtes ultérieures ont montré que c'était complètement faux, mais elles le croient encore. Et donc, du coup, l'effet de ce fonctionnement particulier des réseaux sociaux, donc commerciaux, est de produire de la décohésion sociale, et donc, en gros, d'une certaine manière, de déchirer le tissu social.
Est-ce que ce concept de chambre d'écho, le fait qu'on se divise en petits groupes pour rester un peu dans les idées qui nous confortent, est-ce que c'est relatif seulement aux réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose aussi qui se fait dans la société, même en dehors d'Internet.
Bien sûr. Alors, il faut regarder comment les groupes sociaux se forment. En sociologie, vous avez deux grands piliers, en gros, de la formation des groupes. C'est l'influence sociale, donc le fait que vous êtes influencé par d'autres parce que vous les voyez, vous les admirez, etc. Et l'homophilie, c'est-à-dire le fait que vous cherchez à interagir avec des gens qui vous ressemblent, sous différents critères, soit parce qu'ils ont le même âge que vous, soit parce qu'ils ont la même religion que vous, soit parce qu'ils ont même les mêmes hobbies que vous. Donc ça, ça crée des groupes sociaux qui ont tendance à être plus homogènes qu'ils ne le seraient si on se rencontrait au hasard. Et ça peut créer de temps en temps des sortes de chambres d'écho. On a aussi des clubs de super riches ou des choses comme ça. Bon. Mais ce phénomène-là est amplifié en ligne. Pour le faire rapidement, on a chacun des points de vue différents sur plein de dimensions, l'avortement, le sport, la religion, la redistribution des richesses, etc. Il y a plein de dimensions sur lesquelles on peut se positionner. En général, ces dimensions sont un peu corrélées, mais pas non plus absolument corrélées. On peut avoir des positions sur le climat et d'autres positions sur les vaccins. Et donc on peut continuer à parler à quelqu'un sur une dimension alors qu'on est en désaccord sur une autre. Ce qu'ont l'air de faire les réseaux sociaux, et ça c'est des recherches un petit peu en cours, c'est que parce qu'ils font des algorithmes de recommandation, ils ont tendance à forcer les personnes à s'aligner. Et par exemple, un anti-vax va être aussi climato-sceptique, va être aussi conservateur. Et ça, on le voit très bien aux États-Unis, c'est vraiment en train de s'aligner comme ça. Et quand vous alignez tout ça, ça fait vraiment que, alors que vous avez plein de petits groupes qui peuvent s'opposer sur des thématiques locales, vous finissez par deux grands groupes qui s'opposent surtout au niveau global. Donc ça c'est un gros problème. Et aussi, juste pour mentionner très rapidement, que ce phénomène-là de, en gros, polarisation ou création de sous-groupes d'opinions très orientés ne se fait pas que sur les réseaux sociaux. L'algorithme de recommandation d'Amazon aussi force ceci. Donc si vous vous intéressez à certains sujets, évidemment, on va vous proposer des mêmes sujets de livres similaires. Mais ce qui a été montré aussi, c'est que, par exemple, si vous vous intéressez à le fait que le réchauffement climatique est un canular, bon, ce qui est évidemment faux, mais il y a des livres là-dessus, eh bien, on va vous proposer, bah, le Covid, c'était aussi un canular, et puis on est allé sur la Lune, c'est aussi un canular. Et donc, vous avez différents environnements numériques, comme ça, les réseaux sociaux, Amazon, qui vont aussi pousser les individus vers de la désinformation, en plus de créer de la polarisation.
Via vos différents travaux, il y a un objectif de sensibilisation du public sur ces enjeux. Est-ce que le fait d'informer de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur la société, ça pourrait permettre d'amorcer un changement ?
Disons que dans ce livre-là, l'idée c'est vraiment de dresser un constat qui effectivement est un tableau assez noir de la situation actuelle, mais aussi de donner des pistes de solutions. Donc je termine avec 18 pistes de solutions. Et moi je pense vraiment que si on est informé, si on prend cela sérieusement, en fait le pouvoir est entre deux mains. Les grandes plateformes n'ont de pouvoir que parce qu'on les utilise. Et il y a des solutions alternatives. Il suffit que demain, on change de plateforme pour que tout ce que je raconte là ait beaucoup moins d'effet, beaucoup moins de poids. Donc c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'on peut vraiment changer. Il y a des solutions. C'est des solutions qui doivent être déployées à la fois au niveau individuel, mais tout ne repose pas sur l'individu. Il y a aussi des solutions institutionnelles et collectives, notamment le fait d'aider des réseaux alternatifs ou de changer certaines institutions comme le vote, qui est très vulnérable actuellement à l'heure des réseaux sociaux, puisqu'on peut facilement manipuler, par exemple, l'image du moins pire après un second tour, puisque maintenant on ne fait que de voter contre au lieu de voter pour. Et donc, il y a beaucoup de choses très concrètes à faire. Et donc, c'est un petit peu le but de ce livre-là, à la fois informer, mais aussi de redonner peps et espoir.
Un petit mot, on n'en a pas trop parlé. Sur la liberté d'expression, en quoi c'est danger aussi pour la liberté d'expression ?
Donc ça c'est très important, et parce qu'en plus il y a un débat là, notamment avec le rachat par Elon Musk de Twitter, qui l'a racheté au nom de la liberté d'expression. Hein, il a dit les plateformes sont devenues de fait des places d'expression d'opinion publique ou de formation de l'opinion publique. Ça, il le disait avant de le racheter, quelques mois avant, et il a raison. Et il disait donc il faut racheter Twitter parce que Twitter est biaisé, etc. En fait, ce que l'on voit, c'est que c'était pas du tout ses intentions, puisqu'il a au contraire bridé certaines personnes, réinstauré d'autres personnes qui avaient été bannies, notamment des néo-nazis, etc., évacué des journalistes. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le concept de liberté d'expression sur un réseau social n'a aucun sens. Sur un réseau social, vous êtes dans un espace privé, et donc la seule chose qui compte, c'est les conditions d'utilisation. Et d'ailleurs, Elon Musk lui-même le dit, hein, quand il se défend, quand on l'a pas, il dit « Si le gouvernement me demande de fermer un compte, c'est contre la liberté d'expression, mais si moi je ferme un compte, ça va, c'est juste, c'est chez moi, je peux le faire. » Donc il faut bien comprendre qu'il y a des plateformes qui vous captent vos données. Hein, donc tous les Facebook, Twitter, etc., vous ne pouvez pas repartir avec vos données et remettre par exemple vos threads ailleurs, qui captent aussi votre capital social. Hein, les jeunes qui maintenant donnent leur Instagram au lieu de leur numéro de téléphone, le jour où on leur ferme leur compte, parce que Instagram a tout à fait le droit de fermer le compte quand il veut, eh bien ils se retrouvent sans rien. Donc vous n'êtes pas propriétaire de capital social, alors qu'il y a d'autres plateformes qui par design, par conception, vous permettent ça. Donc là l'idée c'est de permettre à l'utilisateur d'être libre et d'avoir sa propriété de ses données. Et si à un moment donné, il est contrarié par la modération de la plateforme où il est, il trouve que ça c'est pas compatible avec sa conception de la liberté d'expression, eh bien, qu'à cela ne tienne, il peut partir, et partir à la fois avec tout le travail qu'il a fait de production de contenu sur la plateforme, et son audience, et aller ailleurs, dans un espace qui lui convient mieux. Donc c'est en ça que la liberté d'expression, d'une certaine manière, est importante, mais elle n'a de sens que si on prend en compte la configuration des plateformes, leurs conditions d'utilisation et le fait qu'on peut choisir d'une plateforme plutôt qu'une autre parce qu'elle sera plus respectueuse à la fois des données privées et de la propriété du capital social.
J'étais avec David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. Il animait également la conférence du mardi de l'Espace des sciences intitulée Réseaux sociaux, opportunités ou dangers. Merci beaucoup David d'avoir été présent aujourd'hui.
Merci.
Le duo stéphanois The Mikes avec le morceau Mon Prince, c'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, à retrouver sur un 7 titres, N'en parlons plus, c'est son nom. C'est sorti le 1er mars et vous venez donc d'en entendre un extrait dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif ou même pourquoi pas une institution, tant que ça s'inscrit dans le champ de l'information. Formation locale et que ce n'est pas but purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Puis après, je vous propose une rencontre ici, en studio, pourquoi pas sur le terrain, sous forme de reportage, et on peut aussi en parler dans la partie recommandation du jour. On poursuit cette émission avec une interview. Éric Neveu, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes sociologue, politologue, presque rennais, vous habitez pas très loin et vous êtes aujourd'hui professeur émérite de sciences politiques et vous co-dirigez la collection Respublica aux presses universitaires de Rennes. Est-ce que les présentations vous conviennent ou est-ce qu'on oublie des pans importants peut-être de votre parcours ?
On oublie plein de mes médailles à maréchal soviétique, mais c'est pas très grave.
Donc on vous retrouvera jeudi 28 mars à 18h au Jeu de Paume à Rennes pour une rencontre qui a été imaginée par la librairie Planète.io autour d'un ouvrage qui est paru fin 2022 chez Gallimard, des 68 arts ordinaires, c'est son titre. C'est un des sujets de recherche qui vous a tenu un petit peu longtemps puisque vous y avez consacré pas loin de 20 ans, mais on explique que c'est un de vos intérêts parmi d'autres dans le champ des sciences sociales, de la politique.
Oui, parce que je crois que j'ai toujours pensé que les universitaires avaient trop tendance à se spécialiser et à travailler tout le temps sur la même chose, ce qui ne rend pas forcément meilleur ou plus intelligent. Donc moi, j'ai essayé d'être plutôt nomade. Je me suis intéressé à des choses comme le journalisme et l'espace public, les contenus politiques de biens culturels comme les romans d'espionnage ou les romans policiers. J'ai été du côté des études de genre et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur les mouvements sociaux.
et vous avez aussi été donc directeur de Sciences Po Rennes, l'Institut de Sciences Politiques, de 2004 à 2009. Qu'est-ce qui vous a amené donc vers ces militants gauchistes des années 68 dans l'Ouest, Éric Neveu ? On précise que, si j'ai bien fait le calcul, en 1968, vous aviez 16 ans.
Oui, c'est ça. Bah, donc je suis typiquement de ces gens qui n'ont pas fait 68. En 68, je suis lycéen dans un établissement catholique de Bretagne Sud et je ne suis pas très politisé. Donc je suis avec sympathie le côté désordre et mettre le monde cul par-dessus tête, mais je suis pas politisé. Et c'est plutôt après, en arrivant en fac, que je vais me politiser à travers l'UNEF, le PSU, puis des organisations maoïstes. Donc je suis plutôt du côté des gens que mai 68 a fait et non pas de ceux qui ont fait mai 68. Et puis, plus tard, disons à partir des années 90, je vais beaucoup travailler en termes de sociologie sur les mouvements sociaux, d'où cet intérêt.
Mai 68 et puis l'année 1968 en France et puis ailleurs en Occident a ça de particulier qu'il y a eu beaucoup de publications à ce sujet et puis on va dire un peu des célébrités qui ont eu le droit à leurs études. Vous proposez une enquête qui est quand même particulière, présentée comme sans équivalent ni précédent parce qu'elle est vue d'en bas. Vous vous êtes intéressé à celles et ceux qui sont devenus militants en 1968 et en les suivant sur un temps plutôt long.
Oui, alors, sans équivalent, c'est toujours un peu prétentieux. En fait, on va dire que dans la période récente, il y a eu un peu un tournant de la recherche consistant justement à essayer de faire des enquêtes qui partaient du bas et à s'intéresser aux militants ordinaires, aux militants du rang, et pas aux gens bien connus pour être bien connus. C'est-à-dire, en gros, essayer de faire le contraire de ce qu'avait fait avec des mérites, mais avec un tas d'angles morts, génération de Hamon et Rothman, qui était fixé sur essentiellement les célébrités parisiennes. Donc l'idée, ça a été de s'intéresser à des gens qui ont plutôt fait leur vie militante en Bretagne et qui n'étaient pas des gens célèbres, bien connus, homologués comme étant les porte-parole réels ou imaginaires de mai 68.
Donc on est loin des Cohn-Bendit et des Glucksmann. Vous avez réalisé des entretiens avec des dizaines de militants, essentiellement bretons, un petit peu plus de 60. Vous les avez trouvés comment ?
Je les ai trouvés d'une part parce que, ayant été dans ce milieu-là, j'avais encore un petit carnet d'adresses. Et puis j'ai essayé de jouer de la boule de neige, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un pour un entretien, je lui demandais ce qu'il avait lui-même gardé le contact avec des gens qui avaient été engagés dans ces années-là, en essayant au fur et à mesure que la liste des gens que je pouvais rencontrer s'élargissait, de faire en sorte d'aller voir des gens d'engagement, de sensibilité un peu différente dans l'espace des mouvements d'extrême gauche. Donc si je rentre dans les détails, des gens qui avaient été au PSU, des trotskistes, des maoïstes, mais aussi des gens qui avaient plutôt été dans les sensibilités bretonnantes, ou des gens qui, sans être encartés, avaient accompagné le mouvement, toujours en choisissant des gens qui avaient eu des engagements un peu prolongés, c'est-à-dire la moyenne dans les gens que j'ai interviewés, ils ont milité pendant à peu près 7 ans, donc c'était pas des passades, quoi.
Mais en termes de génération, ce sont des personnes donc, qui ont, j'imagine, entre 70-80 ans aujourd'hui, non ?
Oui, c'est ça, parce que le plus âgé doit être né en 42, donc c'est un peu la génération des gens qui commencent à se politiser avec la guerre d'Algérie, et je pense que les plus jeunes, ils sont nés en 54 ou 55, donc c'est plutôt des gens qui, à ce moment-là, se sont politisés dans les années de l'après mai 68.
Comment peut-on s'être lancé dans des engagements qui paraissent aujourd'hui irrationnels ? Quelle a été l'expérience de ces militantismes, souvent décrits comme aveuglément idéologisés ? Que sont devenus ces militants quand les organisations gauchistes se sont délitées à la fin des années 70 ? Ce sont les questions auxquelles vous êtes allé chercher des réponses à travers ces entretiens. On peut donner un petit peu quelques éléments, peut-être déjà sur les aspirations, sur ce qui a poussé ces Bretons, en l'occurrence, à se mobiliser ?
Oui, c'est-à-dire, il y a toujours cette espèce d'inversion des explications qui consiste à dire que les gens se sont mobilisés parce qu'ils avaient lu des livres. C'est le aujourd'hui, ça serait le « je me suis radicalisé sur Internet », c'est pas parce qu'ils ont lu Lénine, Trotsky ou je ne sais quelle grande figure de l'extrême-gauche qui sont rentrés dans l'action politique. C'est parce que ils trouvaient que le monde dans lequel ils vivaient n'était pas bien fait, était injuste, qu'il y avait des phénomènes d'oppression, qu'il y avait toutes sortes d'autorités caporalistes qui quadrillaient leurs existences quotidiennes, qu'ils ont rué dans les brancards et qu'ils avaient envie que ça change. Enfin, il faut aussi se replacer dans un contexte. Alors, les années 68, il y a un fameux titre de film de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge, mais c'est pas simplement un titre de film. C'est ce sentiment que le monde est en train de changer, de basculer. C'est le Vietnam, c'est les derniers fragments d'empires coloniaux qui s'écroulent, c'est des vagues de grève ouvrière. Donc il y a à la fois ce sentiment que le monde peut changer, qu'on peut le secouer, l'exaspération devant toutes sortes de petites dominations et caporalismes sociaux, qui fait que les gens s'engagent. Mais la logique de l'engagement, c'est qu'on a envie de rouler dans les brancards, qu'on a envie d'être de ceux qui secouent le cocotier. Bon, après, éventuellement, on se politise au sens où on lit des textes, où on commence à mobiliser une culture marxiste, mais c'est dans ce sens-là que ça marche, c'est rarement en sens inverse.
Sur le profil sociologique de ces militants gauchistes des années 68 dans l'Ouest, on est finalement assez loin de l'image d'Épinal de personnes qui feraient partie d'une élite assez privilégiée, puisqu'il y a quand même une particularité locale avec un terrain agricole et puis empreint de catholicisme aussi.
Oui, tout à fait. C'est dans les gens que j'ai rencontrés, enfin, je ne dirais jamais qu'ils sont représentatifs, puisque personne n'a la liste de ceux qui se sont engagés, mais je pense qu'ils ne sont pas décalés de ce qu'étaient les militants. Bon, j'ai beaucoup de gens dont les parents étaient paysans, ouvriers, petits commerçants, et le petit est important. C'est-à-dire, si je vais à l'essentiel, j'ai en gros à peu près 60% de gens qui sont vraiment d'origine populaire, ouvriers, paysans, employés, les trois quarts de familles modestes, et des gens qui seraient vraiment issus des catégories sociales supérieures, je sais pas, profession libérale, cadre sup et compagnie, j'ai même pas 15%, c'est-à-dire j'ai une personne dans l'échantillon dont les parents étaient chefs d'entreprise, d'une entreprise assez importante, mais c'est un peu le mouton noir de l'échantillon.
Et on arrive donc au devenir de ces militants dans les années 68. Ce qui est intéressant, c'est que finalement le militantisme ne les a pas quittés, puisque les énergies, elles se sont réactivées dans le syndicalisme, mais aussi dans la vie associative et dans diverses causes. On les retrouve toujours en fait actifs aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à la retraite, voire même au-delà.
Oui, tout à fait. Il y a la légende, au fond, ils ont dessoulé, ils sont devenus libéraux, libertaires. Bon, il peut y avoir des cas individuels, mais rarissimes, dans les gens que j'ai rencontrés de ce type. Mais la logique, c'est qu'ils ont, ils ou elles, ont continué à militer. Beaucoup dans le syndicalisme, en gros, il y en a un sur deux qui est toujours syndiqué. Et quand je dis syndiqué, ça peut vouloir dire, avec des responsabilités importantes, y compris des permanents, au moment où ils partent en retraite. Et si on regarde sur le temps long, au fond, ce qu'il nous raconte, c'est un peu l'équivalent d'un guide du routard du militantisme en France depuis 68. Il y en a qui vont être dans les mouvements écologistes, dans les mouvements féministes, dans les mouvements pour la solidarité nord-sud ou le commerce équitable, la culture bretonne, la solidarité avec la Bosnie au moment de Sarajevo. Donc c'est effectivement des gens qui n'ont pas forcément été militants en permanence, mais qui se sont réengagés régulièrement.
Et certains ont développé ce que vous appelez des compétences d'entrepreneurs sociaux, alors plutôt dans des projets, on va dire, économie sociale et solidaire, quoi.
Oui, entre autres, mais pas seulement. Je sais pas. Alors, je pense à quelqu'un qui relativement tôt était intéressé par les questions d'écologie et qui va avoir l'idée, qui à l'époque n'était pas si évidente que ça, de plaider pour la création d'un conservatoire de l'ensemble des espèces de la flore en Bretagne, qui va arriver à vendre son projet à des collectivités locales et qui, parce que justement il a ce côté entrepreneur, pas au sens du MEDEF, mais au sens de quelqu'un qui porte des projets, qui coordonne des énergies, il va arriver à ce que ce type d'institution se développe dans plusieurs régions de France, et quand il part en retraite, il y a un réseau complet de ces conservatoires qui maillent le territoire français.
Le mouvement social de 1968, il comporte aussi une facette un peu plus sombre, à savoir, on va le résumer comme ça, des phénomènes de domination, ce dont sont conscients les personnes que vous avez rencontrées ?
Oui, puisqu'il y en a même, elles sont peu nombreuses, mais il y en a qui disent « moi, plus jamais ce type de mouvement ». Et effectivement, il y a une conscience, mais je pense qu'il n'est pas seulement rétrospectif, il travaillait déjà les gens à chaud de ce que il y avait des phénomènes de domination, ben, il y avait des chefs, et le fait de maîtriser un discours marxiste pouvait être une ressource d'autorité. Il y avait des rapports de domination homme-femme qui fonctionnaient, et dans un certain nombre de cas, pas si nombreux que ça, il y avait des logiques de sectes, de gourous et de disciples qui pouvaient être extrêmement délétères, oui.
Est-ce qu'on peut s'arrêter peut-être sur un témoignage qui vous a marqué plus que les autres, peut-être en s'arrêtant sur une militante dans ces années 68 dans l'Ouest, pour donner un exemple concret de parcours?
Ouais. Il y a pas mal de gens qui m'ont marqué. Alors c'est presque troublant parce que j'ai pas du tout envie d'être dans l'apologie ou la vie des saints, mais je suis frappé par le dynamisme. Beaucoup de gens, je pense à une femme d'origine plutôt populaire, dont l'engagement d'ailleurs en partie était un engagement de révolte contre une famille extrêmement patriarcale où il y avait peu de chaleur humaine, qui va militer à un moment avec les gens de paysans travailleurs, monter toute une série de projets, d'études avec eux, qui ensuite, par les évolutions de la vie professionnelle, va construire un service jeunesse extrêmement novateur et extrêmement efficace dans une grande ville française, qui ensuite va se réinvestir sur un autre territoire dans des questions d'économie sociale et solidaire, qui à un moment où les intérimaires de PSA à Rennes avaient infiniment de mal à se loger, va arriver à monter un espèce de réseau qui permet aux gens qui ont des chambres libres dans leur appartement de proposer des solutions de logement aux intérimaires de PSA. Enfin, j'en ai beaucoup comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment une espèce de capacité d'innovation, de rebond, de montage de projets. Enfin, entrepreneur social, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Rosan Vallon, mais effectivement, des gens qui ont un esprit d'entreprise, mais pas au service de s'enrichir ou de monter leur petite boîte, mais avec une idée de contribuer à une idée de bien commun, de service d'autrui.
Le détail de ces parcours, de ces trajectoires est donc à retrouver dans un livre que vous avez écrit, Éric Neveu, des 68 arts ordinaires. C'est paru en 2022 chez Gallimard. Et alors, dernière question, un peu finalement pour répondre à la question à quoi ça sert un tel travail sociologique. Que reste-t-il de cet esprit de mai 68 dans les mouvements sociaux récents? On pense pour le plus récent à celui contre la réforme des retraites en 2023. Évidemment, beaucoup de choses ont changé. Le paysage n'est pas du tout le même. Il y a quand même des constantes.
Alors je dirais peut-être d'abord une chose qu'on oublie souvent, c'est que les mouvements sociaux, ça fabrique des militants, et comme on vient de le voir, des militants au long cours, c'est pas que des feux de paille. Bon, je pense qu'il n'y aura rien de plus déplacé que de jouer le rôle du vieux con 68-art qui explique aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut lutter. On n'est pas du tout dans le même contexte, mais je pense qu'un certain nombre de questions que pose mai 68, et en particulier la remise en cause de toutes les formes instituées de division sociale du travail, les hommes et les femmes, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'en ont pas, les intellectuels, les manuels, les ruraux, les campagnards, ça reste plus que jamais à l'ordre du jour, et dans ce sens-là, il y a une actualité de mai 68 et de ceux qui l'ont accompagné au-delà de ces deux mois de mobilisation.
On vous représente, Éric Neveu, vous êtes sociologue, politologue, aujourd'hui professeur émérite de sciences politiques, et vous avez donc écrit cet ouvrage, Les 68 arts ordinaires, qui donne lieu à une rencontre au Jeu de Paume, c'est jeudi 28 mars à partir de 18h, un rendez-vous qui est gratuit et proposé par la librairie Planète.io. Merci beaucoup, Éric.
Merci Lucie, bonne fin de journée.
Fighting Man des Rolling Stones sur Canal B, c'était le choix musical d'Éric Neveu qu'on vient de recevoir en interview et que je remercie pour sa patience puisque nous avons eu un souci sur le premier enregistrement qui était réalisé donc par téléphone. Merci à Éric Neveu d'avoir été patient. Et ce titre là que vous venez d'entendre, on le retrouve sur l'album Beggar's Banquet. C'était le 7e album studio de ce groupe mythique et Mick Jagger a raconté s'être inspiré pour ce titre en partie des événements parisiens de mai 1968. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, une émission qui s'écoute du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, où vous pouvez à chaque fois retrouver le podcast de cette émission, normalement dans la foulée de la diffusion. Avant de se quitter, on passe à la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des idées lectures, podcasts ou documentaires pour lesquels je n'ai pas eu le temps de consacrer un temps plus long d'antenne. Aujourd'hui, deux conseils, tiens. On commence avec une exposition qui est visible jusqu'à vendredi, 10 place du Parlement à Rennes, autour des femmes de l'Union européenne. C'est une proposition de deux associations, la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne et les Jeunes Européens de Rennes. Dans un contexte, vous le savez, préélectoral, puisqu'on le redit, les élections européennes, c'est le 9 juin, en France en tout cas. Autour des femmes de l'Union européenne, ce sont 27 portraits d'européennes, une par État membre, une façon de mettre en lumière les femmes qui ont joué un rôle conséquent dans l'histoire culturelle et politique de l'UE, mais aussi dans la défense des droits des femmes. Vous découvrirez par exemple la grecque Mélina Mercouri, cofondatrice du programme Capitale européenne de la culture, la croate Savka Dapkevich-Kukarn, la première femme présidente d'un parti politique en Europe, ou encore l'autrichienne Ulrike Lunacek, première femme politique autrichienne à avoir fait son coming out. Le deuxième conseil, ce sont rien à voir, les dernières propositions des semaines d'information sur la santé mentale à vivre jusqu'au vendredi 29 mars, un événement qui est porté par le collectif Sisme Rennes qui réunit différents acteurs. Cette année, le thème retenu, c'est le mouvement, un sujet qui s'est décliné en conférences, ateliers, ciné-débats, expositions. À venir, jeudi 28 mars, un échange avec les étudiants de Rennes 2, un atelier de pratique artistique à l'Hôtel Pasteur, un atelier philo au 4 bis Information Jeunesse et puis le vendredi 29 mars pour terminer sur le marché de Villejean, une fresque participative sera organisée autour de la question suivante: quand je me sens mal, je fais quoi? J'ai décidé de m'arrêter sur un des derniers temps forts qui est organisé jeudi soir. L'Arvor va accueillir un ciné-débat autour du film Whiplash de Damien Chazelle, film intense où Andrew, 19 ans, va très loin pour devenir le meilleur batteur possible. La projection sera suivie d'un échange avec Laetitia Bell, maîtresse de conférence en psychopathologie clinique à l'université Rennes 2, et Christine Michenot, elle est psychomotricienne en pédopsychiatrie. Le détail de cette proposition et des semaines d'information sur la santé mentale, c'est à retrouver en ligne sur maisondelasante.com.
Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde?
Ça se passe comment avec le studio même?
Bien. Ouais, je crois qu'il m'aime plus maintenant.
Son avis compte beaucoup pour toi, hein?
Ouais.
Voici pourquoi on ne devrait plus être ensemble. Je veux faire partie des grands.
Et moi, je t'empêcherai d'atteindre ça.
Hé hey, désolé, je suis en retard.
Iman, tu as perdu ta place.
Vous pouvez pas faire ça, putain, c'est...
Quoi?
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.